Alors, je vous rappelle, si c'est nécessaire, que la semaine passée, nous avons concentré notre attention sur le fait que notre cœur était impur. Vous vous rappelez? Et je vous avais dit que ce serait intéressant aujourd'hui qu'on réfléchisse sur le rôle que joue le rapport justement avec la parole de Dieu dans la dimension de purification de notre cœur. D'accord? Alors, je vous pose une petite question, ça m'attendrait que vous ayez la réponse, mais connaissez-vous l'histoire de Mary Jones? Si quelqu'un me dit « oui, je sais qui c'est », je serais vraiment paf, hein. Je m'arrange toujours pour trouver des personnages que personne ne connaît, en fait. C'est un petit jeu. Mary Jones, c'était une petite fille, habitante du Pays de Galles au XIXe siècle, début du XIXe, qui avait attendu pendant des années qu'une école s'ouvre dans un village voisin. Et en fait, finalement, une école s'est ouverte à 6 km de chez elle, et elle parcourait donc matin et soir ces 6 km à pied et pieds nus, parce que les parents n'avaient pas beaucoup de moyens, ils étaient ouvriers agricoles. Elle marchait donc cette distance de 6 km aller-retour tous les jours. Et comme il n'y avait pas beaucoup de moyens dans cette petite école de village, elle a appris à lire dans la Bible. Il y avait une Bible dans toute l'école. Et elle a été tellement émerveillée par le texte biblique qu'elle s'est dit « moi je veux une Bible, ma Bible à moi ». Mais comment obtenir une telle Bible, étant donné que le prix, comme il y en avait très peu de traductions dans différentes langues, à l'époque, le prix était exorbitant, et en particulier pour une petite fille de cet âge. Alors, pour pouvoir se payer cette Bible, pendant 6 ans, elle a fait toutes sortes de travaux, raccommodage, couture, garder les vaches, elle savait faire tout ça à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, je plains les hommes qui se marient. Il fallait que je la place, hein. Vous savez bien que je suis féministe, hein, malgré tout. Donc, elle a fait tout ça pour gagner, c'est mon côté claqué, hein, pour gagner un peu d'argent. Lorsqu'elle a eu finalement économisé le prix de la Bible, elle s'est rendue toujours à pied dans la ville de Bala, au Pays de Galles, à 40 km de là, et toujours pieds nus. Elle est donc arrivée dans la maison du révérend Charles pour lui demander de lui vendre une Bible. Ce monsieur Charles était membre de la Société biblique d'Angleterre. Et là, malheureusement pour elle, le pasteur lui a dit « mais je n'en ai plus en gallois », parce que la gamine ne parlait que le gallois, hein. « Je n'en ai plus en gallois, parce que la Société biblique britannique, enfin anglaise en tout cas à l'époque, ne veut plus en imprimer parce que ça ne vaut pas la peine, les gens sont illettrés, etc. » Alors la gamine s'effondre en larmes. Tout cet investissement pour rien. Et finalement, ben, le pasteur se lève, il va dans sa bibliothèque et lui prend le dernier exemplaire en langue galloise et la donne à Mary. En décembre 1802 de cette même année, il se rendit au comité, donc le pasteur, au comité de la Société des traités religieux de Londres. Il n'avait plus d'arguments, en fait, pour justifier l'impression de Bible en gallois. Mais il a utilisé l'histoire de Mary pour convaincre les autres membres du comité. Il leur a raconté ses travaux, son dévouement pour obtenir la parole de Dieu. Il y a eu un grand silence après l'exposé de Charles. Et au bout d'un moment, le révérend Joseph Hughes, un membre du comité, s'est levé. Il a dit « Monsieur Charles, dit-il gravement, l'appel de cette petite fille, je vous lis dans le texte, hein, l'appel de cette petite fille exprime l'appel du monde et de son immense attente de la parole de Dieu. Pourquoi ne pas créer une société pour publier la Bible pour le monde entier ?» Et c'est de là qu'est parti la création de la Société biblique britannique qui deviendra la Société biblique mondiale. C'est à partir de là, à travers le désir d'une petite fille de posséder la parole de Dieu. Cette histoire m'a fait penser à ce très beau verset du psaume 119, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». La plupart du temps, quand on lit la Bible, on ne se dit pas « Oh, je vais contempler tes merveilles ». On se dit « Faut que je termine pas la journée sans lire ma Bible parce qu'autrement, le patron ne va pas être content. » Voilà. Alors pour Mary Jones, de toute évidence, la Bible était la chose la plus importante au monde. Et en posséder une était un trésor pour lequel elle était prête à faire tous les sacrifices, y compris, parce que ça je ne l'ai pas dit, mais c'est une déduction, y compris ses rares jeux d'enfants. Elle avait peut-être, après les travaux de la ferme parentale, elle avait peut-être une demi-heure pour jouer. Ben non, parce qu'elle devait travailler pour payer sa Bible. Ça en valait la peine pour elle. Alors il existe des êtres, j'en ai pas vraiment l'explication rationnelle. Il existe des êtres qui comprennent instinctivement l'importance et la valeur de la Bible et de ce qu'elle renferme, à savoir la parole vivante de Dieu. Mais pour d'autres chrétiens, peut-être la grande majorité, il est important de savoir à quoi elle sert vraiment et en quoi elle peut nous être utile pratiquement. C'est vrai que dire simplement aux gens, aux chrétiens, ben, lisez votre Bible, il faut lire votre Bible, c'est facile à dire. Mais dans la pratique, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous m'arrêtez si je me trompe. Hein. Alors, nous avons vu la semaine passée que notre cœur était malade, qu'il souffrait d'un mal que la Bible appelle le cœur divisé ou le cœur double, hein, rappelez-vous, hein, dipsoukos en grec. Si nous voulons être sauvés de ce cœur divisé, nous devons être transformés. Et là, je vais laisser la parole à l'apôtre Paul. Voilà ce qu'il dit en Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Paul parle ici d'une pratique, même si l'outil n'est pas explicitement nommé. Il dit qu'il est une pratique indispensable si nous voulons voir notre intelligence, notre cœur renouvelé. Alors, je précise, dans la pensée biblique, le cœur, c'est le lieu de l'intelligence, des sentiments, des émotions, la concentration de l'être entier. Et cette pratique, c'est d'immerger notre cœur et notre intelligence dans la parole de Dieu. Plonger ce cœur dans la parole de Dieu. Le roi David avait déjà bien compris ça, parce que 1000 ans avant Jésus, voilà ce qu'il écrit. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est une très belle image. Hein, mais je pense que David, il parlait de quelque chose de pratique dans sa vie, mais qui est une discipline. C'est quelque chose qu'il faut installer et tenir dans le temps. Donc, comment je peux lire ma Bible de manière à purifier mon cœur? C'est ça le deal. Comment lire la Bible de façon à vivre comme Jésus vivrait ce que j'ai à vivre? Alors, cela ne vous étonnera pas si je vous dis que c'est la Bible elle-même qui va nous donner un début de réponse au travers d'une métaphore, d'une image que donne l'Écriture. On va donc commencer par là, hein, si vous le voulez bien. C'est un texte que je tire d'Éphésiens 5. C'est le théâtre d'Éphèse, hein, s'il en reste. Marie, aimez votre femme comme Christ aimait l'Église. Je me ratais, mesdames, profitez. Pour celles qui sont mariées, profitez. Voilà, comme, on ne va pas vous faire un dessin, comme le Christ a aimé l'Église. Il doit mourir pour vous. Mais comme j'ai souvent dit, comme je ne connais pas beaucoup de mariés, peut-être certains maris se jetteraient devant leur épouse pour prendre une balle à sa place. Un mauvais réflexe, c'est vite arrivé. Mais je pense que mourir pour votre femme tous les jours, c'est, je pense, ça qu'il faut essayer de faire. Voilà, vous êtes content d'être venu, moi aussi. Mais messieurs, bon courage quand vous allez rentrer à la maison aujourd'hui. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alors, nous n'allons pas vraiment nous arrêter sur ce que Paul demande au mari ici, mais bien sur l'analogie, donc l'image qu'il utilise pour justifier le type d'amour dont les maris doivent aimer leurs femmes et le rôle que joue la parole. Je vous synthétise tout ça. Nous, la communauté, donc l'Église, nous sommes l'épouse du Christ et Paul nous dit que nous devons être purifiés et lavés par l'eau de la parole. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ce truc, franchement, hein? Heureusement qu'il y a certains, il y en a certains qui sont appelés à se casser la tête. Hein. Ça veut dire que nous avons été, suivez-moi bien, nous avons été régénérés par la parole, lavés, purifiés par l'Évangile, si vous préférez. Cela est manifesté en nous accordant dans le baptême, le signe extérieur de la régénération opérée par la parole. La foi nécessaire au salut, et c'est Paul qui lira, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ça, c'est ce que Dieu a accompli hier pour tous ceux qui sont en Christ aujourd'hui. Nous avons, si je dois prendre une image, nous avons été plongés dans le bain de la justification. On n'y est pour rien, c'est Dieu qui a tout fait. Ça va? Suivez? C'est de la grande théologie, ça, quand même. L'air de rien. C'est ce que Dieu a accompli pour nous hier. Si nous sommes chrétiens au moment où je parle, il reste maintenant à prendre notre bain de purification, de sanctification, dont la parole est le savon aussi, l'élément purificateur. Et ce bain-là, et ça va vous rassurer peut-être, il faut le prendre tous les jours. Et on se lave tous les jours, rassurez-moi. Allez, oui. On se lave tous les jours. On se purifie le corps tous les jours par nos ablutions quotidiennes. Et bien, spirituellement, nous devons laver notre cœur, le plonger dans ce bain de la parole tous les jours afin d'être sanctifié. Alors imaginez, vous allez me dire à quoi je viens, mais imaginez ce qui se passe quand quelque chose n'est pas lavé comme il le devrait. Imaginez que nous faisions un concours pour celui qui resterait le plus longtemps sans se laver. Alors moi, si on devait le faire un jour, ne fût-ce que pour la forme, moi je perds tout de suite parce que ça, c'est même pas possible. C'est la raison, dans mes jeunes années, pour laquelle je n'ai jamais fait un festival de heavy metal ou de hard de 3-4 jours. Il n'y avait pas de douche, c'est impossible. Je suis une cocotte pour tout ça, moi. Par contraste, représentez-vous maintenant quelque chose de lavé, un vêtement par exemple. L'agent lavant se dépose dans toutes les fibres, dans le moindre recoin du vêtement, et finit par le rendre totalement propre. Aussi sale soit-il, le fait de le laver lui rend sa pureté initiale. D'accord ? Lorsque nous venons à Dieu, nos esprits et nos cœurs sont dans le même état que certains de nos vêtements. Ils sont sales, tout simplement. Ils sont encombrés de fausses croyances, de mauvaises habitudes, de sentiments toxiques, de peur et d'espoir placés en des plans foireux et autres chimères, nos plans foireux, créés, manifestés, exprimés par notre ancienne nature qui est en vous, même si vous êtes chrétien. Il y a un combat entre cette ancienne nature qui produit de mauvaises habitudes, de mauvaises pensées et qui souille votre cœur et la présence du Saint-Esprit en vous. Alors si vous avez un doute sur l'état de votre cœur, vous pouvez peut-être vous dire « Ouais, ben mon cœur, Yves, t'es sympa, mais ça va. Hein, » David, toujours lui, disait à une période de sa vie où ça allait plutôt bien spirituellement pour lui, dans son royaume, dans le psaume 139, le dernier verset, il dit « Seigneur, sonde mon cœur, regarde-y toi et dis-moi si je suis sur une mauvaise voie, parce que nous pouvons nous leurrer par rapport à nous-mêmes d'une manière extraordinaire. » Donc, si vous avez un doute, petit exercice pratique que je vous encourage d'ailleurs à faire tous les soirs avant d'aller faire dodo, avant d'aller dormir. Passez votre journée en revue, donc votre vie en revue ce jour-là, en essayant de vous remémorer vos actions et les pensées qui y ont présidé. Quand il y a une action, c'est qu'une pensée qui dirige, qui motive cette action. D'accord ? Passez en revue tout ça. Croyez-moi, ça vaut le détour. Hein. Vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de trucs dans la journée, vous ne savez pas pourquoi vous avez fait ça, mais ou pensé ça, ou dit ça, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que Dieu voulait que vous fassiez, que vous pensiez et que vous disiez. Alors j'ai pris quelques exemples, non personnels hein, bien sûr, issus de ma grande expérience pastorale. Vous marchez dans la rue, et vous apercevez au loin un homme assis par terre et tenant une pancarte. « J'ai faim !» Malheureusement, plus en plus. Hein. Quel sentiment, quelle pensée vous monte, honnêtement. La plupart du temps, vous dites « Bon, déjà le gars, il n'a pas l'air très, très propre, hein, parce qu'on parle de laver. Je peux déjà le sentir d'ici, il n'est pas propre. Et puis surtout, moi, je n'ai aucune envie de me donner des thunes, mais je suis mal à l'aise par rapport à ça, donc je change de trottoir ou je sors des arcades à Bologne. » C'est une private joke, comme on dit en anglais. Mais en tout cas, cette pensée me vient dans le cœur. Et est-ce que je fais vraiment ce que Dieu me demande de faire quand je fais ça? Je vous pose la question. Hein. Un peu plus tard, vous faites la queue ou ça. Ben, on va reprendre l'exemple du grand magasin. Vous êtes dans la queue et devant, en premier, tout au début de la queue, donc le gars qui est à la caisse, il est en grande conversation avec le caissier. Et ce caissier, de toute évidence, ne maîtrise pas bien le français. Donc ça. Ils sont en train de se dire quelque chose, d'essayer d'expliquer un truc, mais comme le gars ne maîtrise quasi pas le français, ça prend des plombes. Pensez qu'ils vous montrent de votre petit cœur, chéri. Quand est-ce qu'ils vont commencer à engager des gens de ce pays qui parlent la langue de ce pays? Moi, j'aimerais bien pouvoir payer et sortir de ce magasin. Ce même jour, soyons fous, vous devez encore faire une course ailleurs. Seulement, voilà, le magasin où vous allez en voiture, il est bondé, donc, comme il est bondé, le parking est bondé. Vous tournez dans ce parking en restant calme, parce que vous êtes chrétien. C'est Jésus qui conduit votre voiture, dont vous n'énergez jamais, vous n'insultez jamais les autres, vous n'envoyez personne en enfer. Quand soudain, alléluia, une place être en train de se libérer. Alors, vous faites le tour avec un sourire comme ça. Vous suivez les flèches, hein, bien entendu, parce qu'il y a des flèches dans un parking. Et au moment où vous allez avoir la place, quelqu'un d'autre s'y met en venant à contresens, dans le sens où il ne peut pas être. Alors là, vert de rage, vous klaxonnez un bon coup. Et surtout que sans votre femme, parce qu'elle est là, à côté de vous, vous serez probablement sorti de la voiture et vous aurez imprimé la tête du gars dans son capot. Vous voyez l'image ? Et parfois même, messieurs, c'est vous qui devez retenir votre femme, dans certains cas. À ce niveau-là, on est tous égaux. Hein. Alors c'est là que ça devient très drôle. Vous rentrez finalement dans le magasin, finalement vous trouvez une place, après 20 minutes. Et là, le gars de la première voiture vient vers vous en disant, « Monsieur, excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous avez un problème de gestion de colère. Et je suis chrétien. Et je pense que Jésus est la réponse à cette colère. Est-ce que vous voulez qu'on en parle ?» Il y a quand même des fichues journées, quoi. Il y a encore mieux, mes amis, en rapport direct avec la Bible, hein, pour vous dire qu'on peut être tordu. Hein. Donc ça, c'est même mieux que ce que je viens de dire, ou même peut-être pire, c'est selon. Un jour, j'étais en train de lire ma Bible dans le but d'apporter un moment de partage au début d'une rencontre de responsables d'église. Il y aurait que des pasteurs. On m'a demandé d'apporter la méditation. Quand tout à coup, je tombe sur un verset, et j'en reçois vraiment quasi le sens profond de ce verset, tout de suite comme ça, sans rien faire. Hein. Paf, ça me... Oh, splendide. Mais Dieu me parle, quoi. En plus, ce que je reçois de la part de Dieu est en rapport direct avec le point le plus important et délicat que nous allions avoir à l'ordre du jour ce samedi matin-là. Et c'est là que je me vois, tout de suite, je me vois en imagination faire mon exposé et recueillir l'approbation de mes collègues. On dit ah, waouh, terrible hein, quand même, lui. Hein. Quelle bénédiction ce type, quand même. Quelle proximité avec Dieu. Quelle connaissance. Hein. Je me vois. Mais ce qui est dramatique, c'est que Dieu m'avait parlé personnellement à moi. Mais moi, j'étais intéressé que par le fait que j'allais passer pour quelqu'un de super spirituel. Surtout quand je leur ai raconté les conditions, les circonstances dans lesquelles Dieu m'avait parlé. C'est horrible, non ? Vous n'avez pas l'air horrifié. Donc, j'avais transformé un moment d'intimité avec Dieu où il m'avait parlé, durant lequel mon père m'avait parlé, en occasion de prouver ma grande science théologique et en vue d'impressionner les autres. Mais je ne vous ai pas encore tout dit. Ce verset, il parlait de quoi ? Il parlait de l'humilité. Ça ne s'invente pas, ça. Bon, c'était il y a longtemps. Ça veut dire quoi, ce requiemment stupide, là ? Vous êtes sympa avec moi, quand même, hein, franchement. Alors, ces quelques expériences quotidiennes que je viens de partager avec vous sont typiques des pensées qui habitent notre esprit, notre cœur, et qui le souillent. Notre esprit est semblable, cette image, je la tiens d'Henri Nguyen, un prêtre qui a écrit pas mal de bouquins, je vous conseille d'ailleurs. Il disait « Notre esprit est semblable à un bananier rempli de singes qui y monte et en descente sans arrêt. » C'est joli comme image. Hein. Foutu singe hein, quand même. Notre esprit, notre cœur, est en fait rarement à l'arrêt ou tranquille ou paisible. Toutes ces pensées, tous ces chimpanzés qui ne cessent de réclamer notre attention, la question fondamentale, c'est comment je peux en être quitte de toutes ces pensées qui viennent de moi et qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Alors, je ne voudrais pas vous faire peur. Assez souvent, c'est ce que je fais de mieux, je sais bien. Mais dans les quelques exemples que j'ai utilisés jusqu'ici, les pensées émises étant encore très légèrement souillées. Ah ben, elles sont souillées parce qu'elles sont produites par notre ancienne nature, mais il y a pire, hein ? Il y a toujours pire. Nous sommes capables de bien pire. Ces pensées donc émanent de notre ancienne nature, ces natures qui a déposé pendant des années, depuis notre naissance en fait, par éducation, par plein de choses, par environnement, sa conception du monde, des autres et même de Dieu, dans notre cœur, au moyen de l'apprentissage de la vie, sans Dieu. Mais ce ne sont pas les pires que nous pouvons produire. Il existe en nous des pensées bien plus noires. Des pensées qui ressemblent à de gros nuages de crasse. Imaginez ça à l'intérieur de vous, blotti, bien eau chaude dans votre cœur. Visualisez bien cette image et vous aurez une petite idée de ce qui se passe parfois à l'intérieur de votre cœur, ce cœur dont Dieu attend qu'il soit purifié. Des pensées de colère, des pensées obscènes, violentes ou d'une amertume abyssale. Les pères du désert, très vite dans l'Église, surtout d'Orient, il y a des responsables d'Église qui se sont dit « Le monde est fou ». Je me demande si on les remettait aujourd'hui, je ne vous dis pas ce qu'ils penseraient. Et ils se sont retirés dans le désert. Ils avaient de la chance, ils en avaient des déserts. Pour sortir de ce truc. Et les pères du désert appelaient ce genre de pensée, ce genre de sentiment, d'émotion intérieure, des logismoi, alors c'est du grec. Hein. Pour eux, ce mot fait référence aux fausses idées, aux fausses pensées, aux faux raisonnements et aux désirs qui nous poussent à sortir de la pensée de Dieu et, parce qu'une conséquence, à désespérer de la vie. Le pire avec ces pensées, c'est que quand elles nous habitent, on n'en est même pas conscient. On légitimise souvent en disant « c'est normal que je ressente ça, parce qu'il s'est passé ça ». Et parfois c'est légitime d'être en colère. Le seul problème, plus c'est légitime d'être en colère ou dans l'amertume, plus ça nous semble légitime, plus on va avoir du mal à contrer cette pensée, à vouloir s'en purifier. C'est quand même normal, j'en veille à mon père, hein. Il m'a foutu deux baffes il y a 25 ans. Il n'a pas le droit de faire ça, on ne frappe pas ses enfants. 25 ans plus tard, qui est démoli par ça? Votre relation avec votre père et vous-même. C'est légitime, je suis en colère. Donc je ne vais pas quitter ma colère. Mais la colère, elle ne reste pas comme ça, hein, mes amis. Ça grossit. A contrario, la bonne nouvelle, c'est que quand Dieu commence à prendre la place en nous, quand le Christ se développe en nous, l'effet positif, c'est que ça grossit aussi. Merci. Mais dans l'autre sens, y a pas de, tout est spirituel. Il n'y a pas de no man's land dans ce genre de vécu intérieur. Ces pensées, vous allez toute votre vie, je suis désolé de vous le dire, hein, toute votre vie, vous allez quand même devoir vous battre contre. Plus ou moins, suivant que vous laissiez plus ou moins le Christ occuper le plus de place possible dans votre vie. Paul nous dit, toute l'Écriture nous dit, que nous devons être purifiés. Cette béatitude, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, elle n'est pas là pour rien. La pensée de Dieu, c'est que nous le voyons. Avec les yeux de la foi, hein, pas ces yeux-là, bien sûr. Hein. Dans une image bien moins drôle, que celle du bananier. Jean Climac, il n'est pas beau Jean Climac, excusez-moi, un moine syrien du 6e et 7e siècle, auteur du livre L'échelle sainte, de son nom Climac, parce que échelle en grec, vous le savez sans doute, se dit climax, compare ses pensées à ses logismoi, sont des œufs. Donc ses pensées sont des œufs d'asticot qui sont incubés dans le sol de notre ancienne nature. C'est terrible, mais c'est... Alors, je ne sais pas, maintenant, si vous me dites après, moi, je ne comprends pas ce que tu dis. Moi, je vis pas ça. Ben là, je vous encadre au mur. Hein. Mais vraiment, hein, je vous mets sous cloche, sous vitre. Et un saint, déjà ici. Ouais. Un mec, tout le monde vit ça. Non ? Il semble. Hein. Si vous ne vous dites que vous ne vivez pas ça, vous êtes en danger. Parce que c'est que vous êtes totalement non conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je pense que, objectivement, nous savons que c'est vrai. Nous en faisons simplement l'expérience tous les jours. Ce qui nous fait cruellement défaut, c'est cette fameuse pureté du cœur. Donc, cette incapacité, nous souffrons, je l'ai dit la semaine passée, de ne pas pouvoir désirer une seule chose, dans le cas présent, le royaume de Dieu. Alors, parfois, j'ai envie d'entendre, je l'ai dit, hein, quelque chose de la part de mon Père quand j'ouvre la parole de Dieu. Et parfois, il me parle, je lui demande, parle-moi, et il me parle. C'est génial, hein? Et moi, je transforme ça tout de suite en moyen d'impressionner les autres. Et ça vient d'où ? Ça vient de mon cœur. Ces pensées, ces logismoi, sont la contrepartie infernale à ce que dit la parole de Dieu. Et ces pensées, il y a un côté pratique, elles nous équipent pour de mauvaises œuvres. Ben oui. Alors que l'Écriture nous équipe nous forme pour de bonnes œuvres. C'est-à-dire parce que ces pensées sont nos ennemis, qu'elles nous empêchent de méditer le texte biblique, de prier, de réfléchir à ce que Dieu est en train de nous dire par la parole. Je pense qu'on connaît tous ça. Toutes ces pensées, ces images, ces inquiétudes qui nous assaillent alors que nous sommes en train d'essayer de lire notre Bible ou de méditer notre Bible. Tout le temps. Non? John Wayne à cheval, une pub pour un dentifrice, ça c'est dans le meilleur des cas. Après, c'est plein de trucs, qu'est-ce que je vais bouffer? Enfin, ça c'est de cacahuètes, mais ça vous empêche de vous concentrer quand même. Hein? Puis tout le reste. Hein? Moi, parfois, je vais être honnête, hein, je me lève le matin, j'ai passé plus ou moins une bonne nuit, hein, je n'ai pas fait de cauchemar. Je me lève le matin, j'ouvre mes yeux et il y a du caca dans ma tête. C'est fou, hein, ça, quand même. Parfois, je me dis quand même que c'est parce que je me suis couché quelque part avec, hein, mais soit. Donc, quand on est en contact avec le texte ou qu'on essaie de prier, dans le meilleur des cas, ça va prendre parfois de longues minutes pour que ces voix intérieures se taisent. Mais malheureusement, le plus souvent, nous n'attendons même pas jusque-là. Nous abandonnons en chemin en nous disant que ça ira mieux la prochaine fois, mais qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Seigneur, je suis désolé, ça ne va pas. Amen. On passe à autre chose. C'est pour ça qu'on conseille quand même souvent de prier l'Esprit-Saint avant de rentrer en contact avec le texte pour qu'il puisse justement nous illuminer de l'intérieur. Et puis il peut éclairer le texte aussi. Moi, je serai beaucoup plus pratique la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve, en ce qui me concerne, je trouve effrayant de voir combien mon esprit a besoin en permanence d'être nettoyé. Martin Luther, vous connaissez, je pense, hein, le grand réformateur. Il aimait bien manger, ça se voit. En fait, ce qu'il a dit le plus intelligent, c'est ce qu'on appelle les propos de table. Il a bien laissé le catholicisme et la vie monacale, parce qu'il était moine, hein, je rappelle. Et il prenait, entre guillemets, ses disciples à table tous les soirs. Il faisait une grosse bouffe avec de la bière, c'est les Allemands. Einsweidreisaufen. Hein. Et ils étaient un peu pompettes tous les jours, mais ils trouvaient ça merveilleux parce que la bière, ça venait de Dieu, je cite. Hein. Il fallait profiter. Mais il avait raison, Luther. Hein. Hein. Ah, la Guinness, merci, c'est un soit. Et c'est ces propos de table, en échangeant, en mangeant avec ses disciples, qui sont les plus spirituels, en fait. Le Seigneur est bon, quand même. J'ai dit, il était moine, et il était tellement marqué par sa souillure intérieure que Luther passait des heures tous les jours dans le confessionnal de son monastère. Et objectivement, les autres moines ne comprenaient pas. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'un moine peut bien avoir confessé, à confesser comme ça pendant des heures? Qu'est-ce qu'il a pu faire de mal? Chanter fou à l'office? Non, si vous êtes chartreux, si vous chantez fou, vous ne pouvez pas devenir chartreux. Hein, il faut chanter juste. Hein. Ou faire des... Ça me rappelle un camp d'église, ça, il y a des années. Ou faire un lit portefeuille à un des autres moines. Hein. Un souvenir, hein, comme ça. On m'a fait le coup aussi, donc c'est pour ça que je le lis. Un moine, ça consacre sa vie à Dieu. Qu'est-ce qu'il pouvait avoir de si terrible à confesser pendant des heures tous les jours? Mais ses pensées, mes amis... Hein. C'est Basile le Grand, un autre père de l'Église d'Orient, qui disait que même dans la tête des moines, les pensées des moines, l'esprit des moines et le cœur des moines est parfois aussi souillé que certaines rues, et je cite, à prostituer des grandes cités de l'époque. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose visuellement en contact. Hein. Vous avez un cerveau, ça suffit pour vous créer les images vous-même. Et Luther cite dans un de ses ouvrages où il relate cette partie de sa vie qu'il connaissait par cœur le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Par cœur, il connaissait ce verset. Mais ce qui le rendait malade, c'est qu'il était incapable de faire ça ne fût-ce que 5 minutes par jour. Pas possible. Imaginez maintenant que votre esprit soit lavé, que votre cœur soit lavé de tous les débris qui contrarient toutes vos bonnes intentions et surtout ce que Dieu veut faire dans votre vie. Imaginez que chaque fois que vous croisez quelqu'un, votre première pensée soit de prier pour cette personne intérieurement et de bénir cette personne. Que ça soit automatique. Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit-Saint qui pousse à l'intérieur. Imaginez comme ce serait bien si chaque fois que vous êtes anxieux ou confronté à un souci dans votre vie, votre premier réflexe soit de vous tourner vers Dieu avec confiance, avec le cœur en paix. Je sais que tu gères, amen, occupe-toi de ça, moi je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Imaginez que vous soyez marié, et je parle aux messieurs en particulier, et que chaque fois que vous regardez une femme autre que la vôtre, vous la voyez comme votre sœur, votre fille, et pas autre chose. Imaginez. Pour l'instant, on peut que imaginer, hein, souvent. Imaginez-vous vouloir vraiment du bien à ceux qui sont vos ennemis. C'est à ça que ressemble une vie dont le cœur a été purifié, lavé au quotidien par la parole, immergé dans la parole. C'est de ça dont parle Paul quand il écrit aux Colossiens, à une église de la Turquie actuelle, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. C'est de ça que nous avons besoin, mes amis, et de rien d'autre. Sans ça, votre vie chrétienne, ça va au mieux, ça sera une vie d'habitude dite spirituelle, pratiquer vaguement une religion. Le texte biblique est là pour nous aider à apprendre comment vivre dans le royaume de Dieu, ici déjà et maintenant. Elle nous apprend comment nous métamorphoser, comment nous pouvons être changés. Et nous ne pouvons pas accomplir cette tâche sans elle. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas vous, mais moi, à titre personnel, je suis chrétien depuis 30 ans, je n'ai jamais rencontré personne menant une vie spirituellement transformée qui n'ait pas été au préalable et ce pendant des années immergé profondément dans l'Écriture. Vous pensez pouvoir grandir, être transformé intérieurement et purifier votre cœur sans rapport avec le texte biblique, vous vous leurrez. Ça ne marche pas. La semaine prochaine, j'expliquerai qu'on peut lire le texte biblique et avoir plein de connaissances, être aux côtés de ses pompes quand même, hein, bien sûr. Ce n'est pas pour aujourd'hui, ça. Paul parle d'ailleurs de ce rôle de l'Écriture dans ce passage que certains d'entre nous connaissent bien, je pense, en 2 Timothée 3,16. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. C'est intéressant, hein, Paul ne dit pas que l'objectif en connaissant l'Écriture est d'obtenir la cote maximale du jury pour que quand vous arriviez au ciel, Jésus dit « Super, quelle connaissance, hein, bravo, tu sais, bon élève. Hein. » J'ai connu ça dans des églises précédentes. Hein. Qui peut me dire le verset? Oui, monsieur, moi je connais le texte, monsieur. Ce n'est pas ça l'objectif. Ou accessoirement de recevoir les félicitations du pasteur parce que vous connaissez votre Bible. Ce n'est pas ça non plus. Mais bien de la connaître. Et parce que nous la connaissons, parce que nous la laissons nous nettoyer intérieurement, nous sommes formés à des œuvres bonnes que l'Esprit-Saint produit en nous. Son rôle est de nous transformer en une personne dont du cœur s'écoulent des fleuves d'eau vive. Rappelez ce que Jésus disait ? Des fleuves d'eau vive. Jésus ne parle pas d'un goutte à goutte, hein, mes amis. Pas une goutte de temps en temps, hein, mais des fleuves. Mais ces fleuves ne peuvent sortir que d'un cœur purifié. Encore une dernière petite précision et je terminerai par ça, pour aujourd'hui, hein. Je serai pratique, beaucoup plus pratique la semaine prochaine. Être préparé à toute œuvre bonne ne veut bien entendu pas dire que nous devions passer nos journées à jouer au Boy Scout. Hein. Et même si je sais que Tommy ne serait pas content que je dise ça, et pourtant je l'ai dit, c'est bien beaucoup d'autres choses que d'être scout. Hein. D'ailleurs, c'est protestant, donc ça peut être que positif. Mais vous pouvez bien sûr, suivant le bon vieux cliché en cours, aider une vieille dame à traverser la rue. Vous pouvez le faire, hein. C'est sympa quoi. Mais vous ne devez pas passer votre journée à accumuler des bons points. Ce n'est pas le but. Hein. C'est vraiment pas le but. Ces bonnes œuvres ne sont pas des choses que nous nous contentons de faire pour être bien notés par Dieu. Elles sont l'expression extérieure de la profondeur invisible de la richesse de Dieu en nous, de notre vie relationnelle avec lui, de la présence de sa parole en nous et de l'œuvre qu'elle est en train d'accomplir. Amen.